Chapitre 11. Vous avez vraiment besoin de repos, Agatha, dit Bilwong. Vous n'allez quand même pas soupçonner une femme de cet âge. Écoutez-moi plutôt, Bill. La plupart du temps, Bob Dell vivait habillé en femme. Et quand je lui ai demandé pourquoi il avait choisi de vivre dans un village plutôt qu'en ville, où il y aurait sûrement beaucoup plus d'hommes comme lui, il m'a répondu « Je ne suis pas seul ». Bill se mit à rire. Et vous avez aussitôt sauté à la conclusion que Mrs. Tweedy est en réalité un travesti assoiffé de sang. Faites-moi plaisir, Bill, et dites-moi quelle est son histoire. Elle vient d'un village de l'Oxfordshire qui s'appelle Offley Crossis. Elle s'est d'abord installée à Oxford, puis à Carsley il y a un an. Elle a quitté son patelin à la suite d'une tragédie. Quelle tragédie ? Son frère jumeau a trouvé la mort dans un incendie. Et il est censé avoir pris comment cet incendie ? Un court-circuit. Je vous jure, Agatha, que nous avons passé au crible le passé de tout le monde. Et Mr. Tweedy, qu'est-ce qu'il est devenu ? Il n'y en a jamais eu. Elle nous a déclaré qu'elle se faisait appeler Mrs. pour éviter qu'on se moque d'elle en la traitant de vieille fille du village. Personne ne parle plus de vieille fille de nos jours, objecta Agatha. Elle est peut-être vieille, mais elle m'a l'air très robuste et elle a des mains puissantes. Vous travaillez trop dur, Agatha. Vous feriez bien de lâcher prise.
Aggie, protesta Charles, nous ne pouvons pas sonner chez Mrs. Tweedy et l'accuser d'être un homme.
Je veux que tu m'emmènes à Offley Crossis, le village où elle vivait, pour en apprendre plus long sur son fameux frère jumeau. Suppose qu'elle ait voulu hériter de tous leurs biens et qu'elle ait pris son identité.
Charles soupira.
Est-ce que nous pouvons manger d'abord?
N'importe quelle gargote sur la route fera l'affaire, décréta Agatha. Agatha téléphona à son agence pour prévenir qu'elle prenait sa journée. Puis Charles et elle se mirent en route pour l'Oxfordshire, s'arrêtant à un troquet sur le bord de la voie rapide pour dévorer un copieux petit déjeuner à l'anglaise qu'ils firent descendre avec plusieurs mugs de café. Il s'avéra qu'Offley Crossis n'était qu'un tout petit village au bout d'une route pavée à une seule voie. Le temps s'était remis au beau et Charles et Agatha observèrent à loisir les quelques maisons de briques rouges serrées les unes contre les autres autour d'un étang, ainsi que les deux autres bâtiments. Une petite église et une supérette qui vendaient de tout. À part quelques canards qui s'ébrouaient sur l'eau, rien ne bougeait.
« Dommage qu'il n'y ait pas de pub pour nous renseigner. Je déteste l'idée de frapper aux portes !»
grommela Charles. « J'espère qu'il y aura des gens chez eux, » dit Agatha. « Nous ne sommes pas loin d'Oxford. » Et ce pourrait être un de ces villages dortoirs, comme il y en a tant. Regarde, une femme vient de sortir dans son jardin. Je vais essayer de la cuisiner.
Je te laisse faire,
dit Charles d'un ton paresseux. Il s'assit sur un banc au bord de l'étang et regarda de loin Agatha entamer une conversation animée avec la femme. Puis elle revint et annonça. Nous avons de la chance. C'est une nouvelle venue dans le village. Mais elle m'a dit que si nous faisons un saut au pub du prochain patelin, qui s'appelle Sipper Magna, nous y trouverons un vieux célibataire qui connaît tous les potins sur tout le monde, un nommé Barney Gotobed. Au pub, on leur dit que Mr. Gotobed était assis à sa table dans le jardin, sous le grand cèdre. Agatha, qui s'attendait à rencontrer une sorte de péquenot à la langue bien pendue, eut la surprise de découvrir un vieux monsieur aux airs d'érudit, vêtu d'un veston en tweed usé au coude et d'un pantalon de flanelle, avec de rares cheveux grisonnants et des yeux vifs et intelligents. Après s'être présentée et avoir présenté Charles, elle lui demanda « Ça ne vous ennuie pas si nous nous asseyons avec vous? Nous avons quelques questions à vous poser sur les Tweedy. »
« Je vous en prie, » dit-il. « Vous pouvez m'appeler Barney. Apparemment, j'ai la réputation d'être la commère du coin. »
Ils tirèrent deux chaises et s'assirent. « Ce qui nous intrigue, c'est l'incendie qui a coûté la vie au frère, » commença Agatha. « Nous pouvons vous offrir un autre verre ?»«
Une pinte de blonde, ce serait parfait. »
Tu veux bien les commander, Charles? Et un gin tonic pour moi, dit Agatha.
Charles se leva et s'éloigna à contre-cœur, mais revint au bout de quelques instants.
On dirait que j'ai oublié mon portefeuille, Agatha.
Comme d'habitude, bougonna Agatha, tirant le sien de son sac et lui tendant un billet de 20 livres. Puis, elle se tourna vers Barney et reprit d'un ton pressant.
Alors, cet incendie?
Anthony et Lavender Tweedy étaient jumeaux, dit-il, s'adossant à sa chaise. Et c'était à peine si on pouvait les distinguer, parce que Lavender avait l'habitude de s'habiller en homme. Ils se détestaient et vivaient séparément, chacun dans une moitié de la même maison. Il l'avait fait transformer pour avoir chacun sa cuisine et sa salle de bain. Aucun des deux n'a jamais travaillé, parce que leurs parents étaient très fortunés. Mr. Tweedy père possédait plusieurs sites de stockage industriel et avait investi avec sagacité. Je crois qu'ils sont morts quand les jumeaux étaient à Oxford, dans un accident sur l'autoroute M5. À la surprise générale, le frère et la sœur ont abandonné leurs études. Ils sont revenus dans la maison familiale. Et c'est là qu'ils ont vécu pendant des décennies et des décennies, jusqu'à la date de l'incendie. Je suppose que personne n'en a pensé grand-chose. Tous les patelins ont leurs excentriques. Je vous ai dit qu'ils ne travaillaient pas. C'était pas entièrement vrai. Anthony jouait très habilement en bourse et il a considérablement accru leur fortune. Pour quelques raisons, même s'il exécrait ouvertement sa sœur, ils avaient des comptes joints et se partageaient l'argent. Charles revint avec les verres. « Et l'incendie ?» insista Agatha. Tous deux étaient de grands lecteurs et la maison avait l'air d'une bibliothèque. J'imagine que c'est pour ça que le feu s'est propagé si vite et si fort. Il a pris comme une torche. On a retrouvé Lavender dans le jardin, intoxiquée par la fumée, avec des entailles aux poings et aux avant-bras, parce qu'elle avait cassé une fenêtre pour échapper aux flammes.
« C'est curieux, » remarqua Agatha. « Elle n'aurait pas pu s'enfuir par la porte ?»
Ils avaient une peur bleue des cambrioleurs, et tout était verrouillé et cadenassé.
C'était Anthony qui barricadait chaque issue à la tombée du soir, et il gardait les clés dans sa chambre. Sa partie de la maison ressemblait à un coffre-fort.
On n'a rien arrangé, ils trouvaient que le gaz en bouteille était plus économique, et ils en gardaient plusieurs en réserve, qui ont toutes explosé. La caserne de pompiers la plus proche se trouve à plusieurs kilomètres, et quand ils sont arrivés, il était déjà trop tard. À ma connaissance, tout ce qui restait d'Anthony, c'était des débris humains carbonisés.
Personne n'a parlé d'incendie criminel ? Demanda Agatha. Barney haussa les sourcils.
Vous voulez dire, est-ce que Lavender aurait délibérément mis le feu pour se débarrasser de son frère ?
C'est une possibilité, non ?
La compagnie d'assurance a mené une enquête approfondie. C'était une vieille maison georgienne, et l'expert a conclu que le feu avait été provoqué par un court-circuit dans une installation électrique obsolète.
Avez-vous jamais parlé avec les Tweedy ? Demanda Charles.
Ils ne parlaient pour ainsi dire à personne, et les autres villageois avaient tendance à les ignorer. Ils faisaient partie du décor d'Offley-Crucis.
Pourtant, vous vous êtes intéressé à eux ? Observa Agatha.
Depuis que j'ai pris ma retraite de l'université d'Oxford, expliqua le vieil homme, je me suis rendu compte que j'avais du plaisir à étudier les gens et à échafauder des théories sur eux. D'où ma réputation d'amateur de potins, je suppose.
Et vous ? Qu'est-ce qui vous intrigue tant chez les Tweedy ?
Quelque chose qui serait en rapport avec tous ces meurtres ?
Mrs. Tweedy était une des clientes de la thérapeute qui s'est fait assassiner, dit Agatha. Mais à vrai dire, je me renseigne sur tout le monde.
Lavender Tweedy consultait une thérapeute ?
S'étonna Barney.
Je trouve ça difficile à croire, à moins qu'elle ait considérablement changé.
Mais si elle avait eu un terrible secret et qu'elle avait eu besoin de s'en confier à quelqu'un ? Suggéra Agatha. Et si ce quelqu'un avait été une thérapeute adepte du chantage ?
Pour autant que je me souvienne d'elle, Lavender n'était pas du genre à se confier à qui que ce soit,
affirma Barney.
Alors ce feu était vraiment un accident ? Oui, bien sûr, à cause de câbles électriques défectueux. Je vous l'ai dit, c'était une vieille baraque. Un promoteur immobilier a acheté les décombres, rasé ce qui restait et construit deux villas à la place. Parce qu'il y avait pas mal de terrain.
Vous vous rappelez le nom de la compagnie d'assurance ? Demanda Agatha. Barney eut un large sourire.
Vous avez une tournure d'esprit méchamment soupçonneuse, vous savez. C'est Falcon Insurance de Cheltenham. Je m'en souviens bien parce que leur expert est resté assez longtemps dans le village. Tu n'avais encore jamais imaginé de scénario aussi dramatique et extravagant,
ronchonna Charles, tandis qu'il remontait en voiture. Agatha décréta qu'il fallait prendre la route de Cheltenham. « Je suis bien obligée de suivre cette piste, » dit-elle. « Je n'en ai aucune autre. » La cité thermale de Cheltenham dans le Gloucestershire se parait de beaux édifices Regency. Depuis quelque temps, de villes moyennes feutrées et distinguées où abondaient les colonels à la retraite et leurs épouses, elle s'était muée en centre provincial nettement moins tranquille que par le passé. Mais on y visitait toujours la salle des pompes à eau en cuivre et de forts beaux jardins bordés de magnifiques hôtels particuliers en pierre blanche disposés en arc de cercle. Bien qu'elle soit située à l'intérieur des terres, on s'y sentait comme dans une station balnéaire. et en tournant le coin d'une avenue, on s'attendait presque à découvrir une jetée. La compagnie Falcon Insurance avait son siège dans un de ses hôtels. On fit passer Agatha et Charles d'une secrétaire à une autre, jusqu'à ce qu'on leur annonce qu'un certain Mr. Brian Dempsey était disposé à les recevoir. C'était un homme à l'air fatigué, gris, des pieds à la tête, costume gris, visage gris, cheveux gris.
« C'est moi qui me suis chargé de l'expertise après l'incendie chez les Tweedy, » leur dit-il. « J'ai enquêté avec le plus grand soin. Bien sûr, les bouteilles de butane qu'ils conservaient avaient contribué à tout réduire en cendres, et les restes mortels d'Anthony Tweedy n'étaient plus qu'une masse informe calcinée. »
Je me suis laissé dire qu'il était assez facile de simuler un court-circuit, objecta Charles. On dénude un câble électrique, on pose à côté une boîte d'allumettes enflammée, et on n'a plus qu'à filer.
La maison était assurée pour combien ? S'enquit Agatha.
800 000 livres.
Ils étaient assis dans les fauteuils d'un bureau confortablement meublé. Soudain, Agatha se redressa les pupilles dilatées. Charles ne put s'empêcher de se dire qu'il ne lui manquait qu'une ampoule au-dessus de la tête.
« On est sûr que le corps était bien celui d'Anthony Tweedy, n'est-ce pas » demanda-t-elle.
« Et qui d'autre voulez-vous que ce soit ?» rétorqua Dempsey. « La vendeur l'a identifié grâce à sa montre et à une de ses chaussures sur mesure, qui n'avait presque pas brûlé.
Donc pas de recherche par l'empreinte dentaire ou par l'ADN.
« Je connais mon métier, » dit Dempsey d'un ton vexé. « J'ai passé beaucoup de temps à vérifier que l'incendie était bien accidentel. Où diable voulez-vous en venir ?»«
Le frère et la sœur se détestaient, » répondit Agatha. Alors réfléchissez et imaginez. Imaginez seulement que le corps ait été celui de la vendeur, non d'Anthony.
Dempsey eut un rire sec.
Mettez-vous bien en tête que j'ai longuement interrogé la vendeur Tweedy, une vieille dame très affligée. Je ne suis pas idiot, vous savez. Et elle correspondait exactement à une photo qu'elle m'a montrée.
Mais ils étaient jumeaux. Impossible à distinguer l'un de l'autre, protesta Agatha.
Dempsey se leva pour indiquer que l'entretien était terminé.
« C'était très intéressant de causer avec vous, Mrs. Raisin, » dit-il. « Vous n'avez jamais pensé à écrire des romans policiers ?»«
Je vous prie de rester poli, » répliqua Agatha. « Viens, Charles !»«
Un petit verre ne serait pas de refus, » dit Charles quand ils sortirent du bâtiment. « Et surtout, je voudrais que tu t'asseyes et que tu m'expliques exactement quelle idée a germé dans ta tête folle. »
Ils marchèrent jusqu'au bar du Queen's Hotel. « Voici ce que je pense. » dit Agatha après avoir avalé une gorgée de son gin tonic. Bob Dell était un travesti. Et il m'a dit qu'il n'était pas seul dans son cas. Tu comprends? Si Bob le travesti avait reconnu l'homme caché sous le déguisement de la soi-disant Lavender Tweedy? Et si cet homme m'avait vu aller chez Bob et s'était alarmé?
Et comment pourrais-tu t'en assurer?
Demanda Charles, sceptique. Le plus souvent, les dents survivent à la carbonisation. Je me demande si le corps a été enterré ou incinéré. Il faut que je pose la question à Bill.
Qui en référera Darda à ses supérieurs. Et Wilkes t'ordonnera de cesser d'interférer dans le travail de la police.
Je me demande aussi ce qui pousse dans le jardin de Mrs. Tweedy.
Aggie, la police a cherché dans tous les jardins s'il y avait de l'aconite.
Nom d'un salopard à sonnette. On aurait pu l'arracher après usage, non?
Et les ortillons, suggéra soudain Charles.
Les ortillons étaient de petites bandes de terre arables, un peu en dehors de Carsley, que certains villageois louaient pour y faire pousser des légumes et des fleurs.
« Je crois me rappeler que les flics les ont explorés aussi, » répondit sombrement Agatha.
« Supposons un instant que je croie à ton idée loufoque, » dit Charles. « Est-ce que Mrs. Tweedy n'aurait pas pu louer un ortillon dans un des patelins du voisinage? S'il en a de disponibles, Mrs. Blacksby doit le savoir. »
Le visage d'Agatha s'éclaircit.
Allons le lui demander.
Une grande perplexité se peignit sur le doux visage de Mrs. Blacksby quand Agatha lui exposa sa nouvelle théorie, puis quand elle lui demanda s'il était possible que Mrs. Tweedy ait loué un ortillon dans une commune des alentours.
Prenez un autre scone, Sir Charles, pendant que je réfléchis, dit la femme du pasteur.
Puis, le mieux, c'est que j'aille poser la question à Ralph. Elle entra dans le bureau de son mari et malheureusement laissa la porte ouverte.
« Tu veux dire que cette enquiquineuse est encore fourrée chez nous ?»
entendirent-ils le pasteur demander.
« Elle n'en a donc pas une à elle où elle pourrait laisser les gens tranquilles ?»
Puis la porte du bureau se referma. Charles eut un large sourire.
« Il ne t'aime pas beaucoup, pas vrai ?»«
Ce bonhomme n'est pas un bon chrétien, »
répliqua sèchement Agatha.
Au bout de quelques instants, Mrs. Blugsby revint.
« À une quinzaine de kilomètres de Carsley, dit-elle, il y a un village qui s'appelle Upper Harley. L'année dernière, la commune louait des ortillons. C'est à peine plus grand qu'un hameau, et il se pourrait qu'ils ouvrent la location à des gens venus d'ailleurs.
J'irai y jeter un coup d'œil, mais à la nuit tombée, dit Agatha. Je ne veux pas qu'on me voie fureter en plein jour.
Je ne peux pas t'accompagner, dit Charles. J'ai un dîner, mais emmène quelqu'un d'autre avec toi.
Peut-être, j'y réfléchirai.
Ne fais pas l'idiote, insista Charles d'un ton sévère. N'y va pas seul.
Ce soir-là, pendant le dîner, Charles s'entretint poliment avec ses voisins de table, mais sans que ses pensées cessent un instant de se bousculer.
Bon sang, quel souci cette Agatha!
Mais si ces folles conjectures étaient justes, elle s'exposait à un grave danger. Par-delà les hautes fenêtres de la salle à manger, il regarda s'assombrir le rose orangé du crépuscule. Bientôt il ferait nuit. Pour finir, n'en pouvant plus, il marmonna une excuse et trouva le chemin des toilettes. Là, il s'assit sur le couvercle et prit dans sa poche son téléphone où les numéros de tous les collaborateurs d'Agatha figuraient dans sa liste de contacts. Rapidement, il leur indiqua dans un texto collectif où Agatha comptait se rendre et les supplia de l'y rejoindre. Puis il appela Bill Wong, que par bonheur il trouva chez lui. Non sans stupeur, Bill écouta Charles lui expliquer rapidement la théorie d'Agatha et son projet pour la soirée.
« Je pense que cette tentative d'assassinat lui a embrouillé les idées, » dit-il. « Autrement, elle ne se serait jamais mis de telles absurdités en tête. » « Mais il y a quelque chose de terriblement convaincant dans toutes ces spéculations, » argua Charles. « Pourriez-vous vous rendre sur place et vous rendre compte par vous-même ?»«
C'est ma soirée de congé, » protesta Bill.
« Oh, et puis si vous y tenez, mais croyez-moi, elle va m'entendre. »
Sitôt la nuit tombée, Agatha se mit en route écoutant la voix irritante de son GPS lui dicter l'itinéraire jusqu'à Upper Harley. Bien que la région des Cotswolds attire beaucoup de visiteurs, on y trouve encore de tout petits villages comme celui-là, enterrés parmi les collines, que très peu de gens connaissent. Elle ne cessait de jeter des coups d'œil dans son rétroviseur pour s'assurer qu'elle n'était pas suivie. Force lui fut de constater que plusieurs voitures roulaient derrière la sienne et il en fut ainsi jusqu'à ce qu'elle quitte la grande route. La direction qu'elle prit alors lui fit emprunter de petites voies sombres et tortueuses bordées d'arbres dont le feuillage cachait la lune. Enfin, elle arriva à Upper Harley, se gara sur la placette centrale, descendit de voiture et regarda autour d'elle. Le village semblait se résumer à un petit groupe de maisons au bord d'un étang, sans aucune trace de la moindre boutique ou du moindre pub. Agatha marcha jusqu'à la maison la plus proche et frappa à la porte pour demander où se trouvaient les ortillons.
« Pas la peine de chercher à en louer, hein ?»
dit la femme qui lui répondit.
« Les terrains ont été mis en vente pour être lotis. »
Le cœur d'Agatha se serra, mais elle insista quand même.
« Où sont-ils ? Vous êtes en voiture ?»«
Oui. »
Prenez ce petit chemin de l'autre côté de l'étang, mais roulez lentement parce qu'il y a parfois des moutons. Les ortillons, vous les trouverez à 400 mètres, sur la gauche.
Après l'avoir remercié, Agatha remonta en voiture et se mit en route, presque au pas, espérant que les moutons dormaient. Le chemin de terre battue n'était pas bordé d'arbres, et elle se réjouit de voir briller la lune, sans laquelle elle aurait pu dépasser les ortillons sans les voir, car ils se cachaient derrière une haie broussailleuse. Elle roulait à l'allure d'un escargot, et pourtant, seule une brèche dans cette haie lui permit de distinguer quelques bandes de terrain labouré. Elle s'arrêta, prit son appareil photo ainsi qu'une torche puissante et se glissa par la brèche. Sans doute en raison de la vente imminente, plusieurs des ortillons avaient été laissés en friche, mais d'autres étaient cultivés et quelques remises à outils se dressaient ça et là. Dans un de ces jardinets tout en longueur, poussaient des haricots, dans un autre, des courges, mais ce qu'Agatha cherchait, c'était des fleurs. Un vent léger se leva, semblant murmurer des avertissements, et soudain, Agatha fut tentée de tout laisser tomber et de rentrer chez elle. Elle regretta de n'avoir pas demandé à Simon ou à Tony de l'accompagner. Non sans dépit, elle prit conscience que, pour une fois, ses nerfs en piteux état la trahissaient. Mais elle se morigéna et poursuivit avec précaution son chemin entre les plantations, balayant l'obscurité de droite à gauche avec sa torche. Approchant d'un mur dans le fond, elle vit une remise derrière des parterres de fleurs. Des phlox, des roses trémières tardives, des chrysanthèmes précoces.
Elle promena sur ses fleurs le rayon blanc de sa torche, mais pas trace d'aconite. Il était grand temps de rentrer. Elle allait tourner les talons quand elle vit briller du vert derrière la remise. Elle la contourna et tomba sur une petite serre dont la porte était fermée par un cadenas. Agatha dirigea sa torche sur la paroi vitrée et de l'autre côté, le rayon captura une grande touffe vigoureuse de ce qu'elle reconnut enfin comme de l'aconite. Ses lèvres dessinèrent un sourire de triomphe et elle prit son téléphone pour appeler la police. Ce fut alors qu'un violent coup la frappa à l'arrière de la tête et qu'elle s'écroula sur le sol. Agatha lutta avec l'énergie du désespoir contre l'obscurité qui voulait engloutir sa conscience. Au-dessus d'elle, elle entendit une voix sarcastique. « Pauvre poufias fouille-merde, c'était amusant de te regarder te cogner la tête contre les murs. Mais tu es plus maligne que je ne pensais. Reste là, à plat ventre, pendant que je te creuse une jolie tombe. » Les pensées d'Agatha vacillaient. « Elle va m'enterrer vivante, se dit-elle. Mieux vaut qu'elle me croie évanouie, ou qu'il me croie. Je jurerais que c'est le frère jumeau, Anthony. » Elle entendait le bruit d'une pelle qui creusait la terre. Le sang de sa plaie lui coula dans les yeux tandis qu'elle s'efforçait de sentir si elle pouvait bouger. Mais ce fut alors que ses forces l'abandonnèrent et que la nuit complète se fit. Au même moment, la voiture de Bill Wong et d'Alice Peterson filait dans la nuit. À son corps défendant, Bill devait admettre que ce changement de programme le tirait d'une situation embarrassante et lui faisait plaisir. Il y avait longtemps qu'il était attiré par Alice, et tant pis si les relations trop intimes entre collègues étaient regardées d'un mauvais œil par la hiérarchie. Ce soir-là, il l'avait invitée à dîner chez lui, c'est-à-dire chez ses parents, car il n'avait pas encore quitté le foyer familial. Mais sa mère s'était montrée singulièrement désagréable avec la jeune femme, même si, de son propre chef, Bill n'aurait pas employé ce mot, car il adorait sa maman, et s'était dit qu'elle ne se sentait peut-être pas dans son assiette. « Vous pensez qu'Agatha Raisin a pu mettre dans le mille ?» demanda Alice. « Pas une seconde, » répondit Bill. « Je trouve son idée furieusement tirée par les cheveux. »« Des idées tirées par les cheveux, » dit Alice, « ce n'est pas la première fois qu'il lui en vient, et souvent elles ne sont pas si bêtes. »« Mais celle-ci, c'est du grand n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, nous allons la sortir de ce bourbier et nous prendrons tous les trois un café sur le chemin du retour. » Ils venaient de se garer dans le voisinage des Ortillons quand une autre voiture s'arrêta derrière la leur, d'où descendirent Tony et Simon. « Sir Charles a vraiment cédé à la panique, » dit Bill. « Venez, vous deux, finissons-en et rentrons en vitesse. » Ils s'avancèrent entre les jardinets criant « Agatha !» à tue-tête. Un homme sortit d'une remise et s'emporta en les voyant. « Putain, qu'est-ce que vous foutez à piétiner mes courges primées ? Je vais porter plainte !»«
Nous cherchons une amie. » expliqua Bill.
La vieille Mrs. Tweedy?
Bill s'immobilisa un instant.
Où est son ortillon?
Là-bas, dans le fond. Mais vous allez me payer pour cette courge que vous avez écrasée!
Ils se hâtèrent plus avant, Bill et Alice éclairant le chemin avec leurs torches, jusqu'au moment où ils tombèrent sur un grand trou creusé dans le sol. Avec un hoquet d'effroi, Bill dirigea sa torche au fond de cette fosse et, de la terre fraîchement remuée, vit dépasser un pied de femme. D'une voix forte, il enjoignit à Alice d'appeler le commissariat et de demander du renfort. Puis Simon et lui descendirent dans la fosse et écartèrent frénétiquement les pelletées de terre amassées pour dégager le corps en dessous, jusqu'au moment où apparut Agatha le visage couvert de sang. Bill tâta son cou.
« Le pouls bat encore, » dit-il, « mais je n'ose pas la déplacer. Tony, il y a des couvertures de survie pour les personnes en état de choc dans le coffre de ma voiture. » Allez en chercher une et nous la couvrirons avec jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. »
Une voix derrière lui le fit sursauter.
« Est-ce qu'elle est morte ?»
C'était Charles, le visage blafard sous les rayons de lune.
« Non, mais elle est assez mal en point, » répondit Bill.
« Où est passée cette nommée Tweedy, ou ce Tweedy, si c'est Agatha qui a raison ?»«
Nous n'avons pas eu le temps de chercher, » dit Bill. « Mais Alice a prévenu le commissariat, on va lancer une recherche à l'échelon national. »
La rumeur était parvenue jusqu'aux villageois de Pearly qu'il y avait eu du grabuge dans la zone des Ortillons, si bien qu'Alice déroula une bande de plastique jaune pour délimiter officiellement la scène de crime. L'homme à la courge, qui se plaignait toujours qu'on ait abîmé ses précieux légumes primés, fut renvoyé dans ses foyers. À l'immense soulagement de Bill, un hélicoptère de police secours apparut, décrivant des cercles au-dessus de leur tête et atterrit dans un champ voisin. Des ambulanciers accoururent avec un brancard et transportèrent Agatha toujours inconsciente jusqu'à l'appareil.
Charles reçut l'autorisation de s'envoler avec elle, mais on ordonna à Tony et à Simon d'attendre jusqu'à ce qu'on ait pris leur déposition. À l'hôpital, les médecins constatèrent que l'épaisse chevelure d'Agatha lui avait évité une fracture du crâne, et quand elle reprit connaissance, ce fut pour découvrir Bill et le divisionnaire Wilkes debout à côté de son lit. Elle leur adressa un pauvre sourire.
« Alors, je suis encore en vie ?»«
Nous voudrions vous poser quelques questions, » dit Wilkes.
Puis comme si les mots lui étaient arrachés de la gorge, il ajouta.
« Vous avez fait du bon boulot d'enquêtrice, Mrs. Raisin. Dites-moi comment vous avez compris. »
D'une voix faible, Agatha narra sa rencontre avec Bob Dell et expliqua que la phrase qu'il avait prononcée sur le seuil « Je ne suis pas seule », suivie de l'agression qui lui avait coûté la vie, l'avait conduite à nourrir des soupçons à l'encontre de Mrs. ou comme on le suspectait maintenant, de Mr. Tweedy. Mais bientôt, ses yeux se fermèrent et elle s'endormit. Le lendemain, elle eut la sensation d'avoir recouvré des forces et fut en mesure de faire un compte-rendu plus détaillé. Quand elle en eut terminé, Mrs. Blugsby entra dans sa chambre, le visage marqué par l'anxiété.
« Je n'aurais jamais dû vous parler de ces ortillons !»
dit-elle.
« Heureusement que vous l'avez fait, au contraire !» protesta Agatha. « Est-ce qu'il y a un planton en faction pour garder ma porte ?»«
Bien sûr, on n'a pas encore interpellé Tweedy. » »«
Je parierais qu'ils ont été trop lents pour geler ses comptes bancaires à temps, alors qu'il est, il peut être n'importe où. » »«
Pourquoi n'avons-nous jamais pensé que Mrs. Tweedy pouvait être un homme ?»
s'interrogea tout haut la femme du pasteur.
Agatha laissa échapper un soupir. Elle faisait à tout le monde l'effet d'être une vieille bique méchante. Certaines vieilles femmes deviennent comme asexuées. Elles perdent toute féminité, et les gens ne les observent jamais avec attention. J'espère qu'on l'arrêtera. Et puis, comment une femme qui n'a jamais travaillé a-t-elle trouvé assez de ressources pour poser des micros dans mon cottage ?
Oh, à la réflexion, je suppose que ce n'était pas si difficile, avec tous les gadgets qu'on peut acheter en ligne, les tutos et tout le reste. Une fois entrée, elle n'a eu qu'à les mettre en marche un peu partout.
Vous voyez, je continue à dire « elle ».
Puis Agatha regarda autour d'elle.
« Je ne vois pas de fleurs, » s'étonna-t-elle.
« Les hôpitaux n'autorisent plus les fleurs, » dit Mrs. Blugsby. « Beaucoup de gens vous ont envoyé des chocolats, des fruits frais et des gâteaux, mais la police les a emportés au labo pour faire vérifier s'ils ne contiennent pas du poison. »«
Et où est James ?»«
En Thaïlande, mais il a téléphoné pour avoir de vos nouvelles, et des journalistes ont tenté d'entrer pour vous interviewer. »«
Oh, vous savez, » dit Agatha avec lassitude, « pour une fois, » Je ne me sens pas capable de les affronter. Regardez ma pauvre tête, couverte de bandages, avec les cheveux rasés dessous. Il faudra que je porte une perruque jusqu'à ce qu'ils repoussent.
La porte s'ouvrit et Charles apparut, un sac en papier brun à la main, qu'il laissa tomber sur la table.
« Double cheeseburger, double ration de frites et café noir géant !» annonça-t-il.
« Tu es un amour !» s'écria Agatha. « La nourriture de l'hôpital est infecte. »
« Oh, Sir Charles !» protesta Mrs. Blugsby. « Vous n'auriez pas pu lui apporter quelque chose d'un peu plus sain ?»«
La malbouffe, c'est ce qui réussit le mieux à notre Agatha !» dit Charles. « Mais écoute-moi, Aggie. Dès que tu pourras sortir d'ici, tu serais bien inspiré de partir en vacances quelque part. »«
C'est tout le contraire. La résolution de l'affaire va apporter des masses de travail à l'agence, » répliqua Agatha. « Et j'ai hâte de reprendre le collier !»
Mais non sans inquiétude, Mrs. Blugsby vit que ses mains soigneusement manucurées, qui tenaient le gobelet de café, tremblaient un peu. Au bout de 2 semaines, à la veille de la sortie d'Agatha, Bill Wong passa la voir pour lui annoncer que la dépouille d'Anthony Tweedy avait été exhumée et que le légiste avait établi qu'il s'agissait en réalité de celle de sa sœur, Lavender. C'était elle qui avait péri dans l'incendie et Anthony avait usurpé son identité.
« Je m'étonne qu'il soit resté assez de ce cadavre calciné pour qu'on ait pu en extraire un ADN, » dit Agatha. « Il y avait ce qu'il fallait dans une molaire qui avait survécu. »
Personne n'avait révélé à Agatha que le planton devant sa porte avait reçu l'ordre de refuser l'accès à sa chambre à Roy Silver, car les autorités lui en voulaient. Il avait débarqué dès que les médias avaient été au courant de la dernière tentative d'assassinat d'Agatha. Et il avait tenu des conférences de presse sur les marches de l'hôpital, non sans se vanter d'avoir secondé Agatha dans toutes les affaires qu'elle avait résolues. En revanche, tous les employés de l'agence lui avaient rendu des visites quotidiennes pour lui présenter leurs rapports sur les enquêtes en cours. Charles et Mrs. Blugsby auraient préféré qu'il s'en abstienne, mais Agatha avait insisté pour être tenue au courant de tout. Quand elle rentra chez elle, Doris l'attendait avec les deux chats. Anxieusement, elle regarda Agatha les caresser, puis éclater brusquement en sanglots.
« Allons, allons, ma chère, il faut vous calmer, » dit Doris.
« Oui, oui, » répondit Agatha en se tamponnant les yeux. « Je pense que je serai complètement remise d'ici un jour ou deux. »
« Cet affreux bonhomme n'osera pas vous approcher. »«
J'espère bien que non, » dit Agatha. « Je suppose que s'il ne m'a pas tué d'emblée, c'est parce qu'il me prenait pour une imbécile. Il a dû confier des choses à Jill Davant. Elle a essayé de le faire chanter, et c'est ainsi que la série des meurtres a commencé. » On dit souvent qu'après un premier assassinat, les suivants sont beaucoup plus faciles.
Charles accueillait la fête annuelle du village de Carsley dans son domaine. Il avait les zygomatiques douloureux à force d'adresser des sourires à tout le monde, et à vrai dire, il s'ennuyait à en pleurer. À la fin de la journée, il finit par battre en retraite dans son joli manoir et monter dans son bureau où Gustave lui apporta une bière. Il posa les pieds sur sa table de travail et se rappela soudain qu'il avait acheté un carton de loterie à gratter qui lui avait coûté une livre à un des étals. Il le prit dans sa poche, ainsi qu'une pièce de monnaie, et entreprit de gratter avec force. Quand il en eut fini, il eut du mal à croire ses yeux. Il avait gagné 750 000 livres.
« C'est comme si je venais de déterrer un trésor, » pensa-t-il. « Voilà qui mérite d'être célébré par quelques cadeaux. »
Ce fut alors qu'il pensa à Agatha, qui avait grandement besoin de vacances. S'il les lui offrait, et à quel genre de voyage ne pourrait-elle pas résister? Mais il fallait aussi penser à sa vieille tante, qui habitait la maison, sans oublier le fidèle Gustave. Il les appela tous deux dans la pièce. Son valet avait besoin d'une nouvelle moto, sa tante préférait une grosse donation à une fondation de lutte contre le cancer. Quand Gustave fut ressorti pour se plonger dans des catalogues, Charles dit à la vieille dame
« J'aimerais bien envoyer Agatha Reza en vacances quelque part. Des vacances qu'elle n'aurait pas le cœur de refuser. Vous auriez une idée ?»«
Oh, cette Miss Marple de tes amis? Pourquoi pas Venise par l'Orient Express ?»«
Magnifique !»
s'écria Charles enthousiaste. Au vrai, le voyage à Venise faillit ne jamais se faire, car dès le lendemain, la pingrerie invétérée de Charles avait repris le dessus. L'entretien de son domaine lui coûtait beaucoup d'argent et il regrettait déjà son élan de générosité. Au demeurant, il ne pouvait guère annoncer à sa tante ou à Gustave qu'il avait changé d'avis. Pour autant, un voyage par l'Orient Express devait coûter affreusement cher. Mais Agatha était au bord de la dépression et il voulait retrouver son Agatha de naguère, car elle le divertissait.
« Peut-être qu'elle refusera »,
se dit-il avec espoir.